Eh bien, bonjour, bon dimanche, j'espère que vous allez bien.
Ça va?
C'est bien, gloire à Dieu. C'est bien.
Sur la route de Capernaum, nous sommes allés là avec Michou.
On a vu la soi-disant maison où se réunissaient Jésus et les apôtres. Et là, sur la route de Capernaum, les apôtres s'interrogent entre eux, discutent. Ils pensent qu'ils sont hors de portée des oreilles de Jésus. Ils peuvent peut-être être physiquement hors de portée des oreilles de Jésus, mais de toute façon, il sait tout. Alors, les questions qu'ils se posaient avaient amené une discussion, et puis la discussion s'amenait une dispute. La question dont ils se souciaient, c'était de savoir qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Bon, au moins ils avaient compris une chose, c'est que Jésus était le roi, qu'il était le Messie, c'était déjà une bonne chose. Beaucoup de gens savent que Jésus est le roi, que Jésus est le Seigneur, c'est bien. Mais en tout cas, eux, ça ne les avait pas rendus beaucoup plus intelligents. Leur pensée était polluée par l'espoir traditionnel qui véhiculait, que les religieux véhiculaient. C'était que le Messie était à la fois, quand il viendrait, seigneur spirituel et temporel, c'est-à-dire qu'il s'occuperait d'Israël et il chasserait les Romains. Et puis Jésus avait souvent parlé, il avait fait des allusions au sujet de son royaume et de l'état béni et merveilleux de ceux qui lui appartiendraient. Donc, alors, voilà, ils étaient sûrs qu'il allait y avoir une crise, que ça n'allait pas continuer comme ça, qu'ils n'allaient pas continuer à se balader sur les chemins en prêchant la bonne parole, en se contentant de guérir les malades, de chasser les démons, mais qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se produire. Vous savez, comme les chrétiens qui disent « il est arrivé ça, donc ça veut dire qu'il va arriver ça ». Des pronostiqueurs, vous savez, hein, vous voyez, déjà l'esprit de spéculation, il a dit ça, donc ça veut dire que... Non, c'est ça, c'est des raisonnements charnels. Prions. Jésus, je te prie que tu nous éclaires ce matin et que tu nous montres quel doit être notre comportement, notre position. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Alors, les voilà qui s'abandonnent à la contemplation égoïste, carrément, de leur grand futur. Voilà, ils ont l'ambition dans le nouveau royaume, dont l'apparition était imminente. Vous avez tous entendu parler de ce mot, je peux plus le supporter. Le retour imminent du Seigneur Jésus, la venue imminente de Jésus, l'enlèvement imminent. J'en ai marre de ce mot. C'est des spéculations. C'est des spéculations. Jésus nous a donné les signes sont là, bon, point barre, on s'occupe plus de ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare à être digne pour cet enlèvement. Alors, qui dit royaume, dit premier ministre. Et puis ensuite, donc, il s'est posé des questions, il ne peut pas y avoir 150 premiers ministres. Alors, qui serait le plus grand, et ensuite, qui serait... le chancelier, ou alors qui serait le commandant des troupes, ou, hein? Voilà, discutait de ça. L'ambition personnelle avait donc déjà engendré de la jalousie dans leur cœur. Et les voilà tous ensemble qui arrivent à la maison de Capernaum, ils rentrent, ils sont là, ils sont installés, et ils chuchotent encore entre eux là-dessus. Et selon Marc, 9, 33-35, Jésus leur dit, de quoi vous discutiez en chemin? Mutis, ils ont un peu honte quand même. Ils répondent pas. Carrément, ils répondent pas. Jésus pose une question, ils répondent pas. Par réponse. Selon Matthieu 18, 11, les disciples, c'est eux qui posent la question à Jésus. Donc quand ils sont là, ils disent, mais c'est qui le plus grand? Ce sera qui le plus grand dans le royaume des cieux? Moi, ça me gêne pas qu'il y ait une petite différence, hein. Entre Marc et Matthieu, ça ne me gêne pas du tout. Ce qui me gêne, c'est... Ce que je ne voudrais pas, c'est être comme ces disciples-là, avoir une espèce d'ambition bizarre. Jésus comprend donc la question, et il connaît leur état non éclairé, Et il leur donne une leçon, il illustre, il prend un enfant qui était là, il le met au milieu d'eux, et puis il dit à ses disciples, en vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, eh bien vous n'entrerez même pas dans le royaume de Dieu. Tiens, on va le lire, c'est dans Matthieu chapitre 18, verset 1. Matthieu 18, 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus aurait dû leur répondre, « Moi !» Ben oui. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, » donc il estime qu'ils ne sont même pas convertis, « et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Si quelqu'un fait trébucher un de ces petits enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges ou des scandales, les pièges et les scandales sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. » Donc, Jésus est obligé, même plus tard, on va voir, de leur rappeler encore ces choses-là. On trouve ça dans Matthieu 19, verset 13-15. 19-13-15, dit... Alors les gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il posât les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux, pour ceux qui leur ressemblent. » Et il posa les mains sur eux et il partit de là. Donc il est obligé de... C'est bizarre ces disciples. Hein. Bon, ils croyaient rendre service à Dieu. Il y a beaucoup qui croyaient rendre service à Dieu. Qu'apprenons-nous ? Eh bien, on apprend que les apôtres ne sont pas convertis. Est-ce qu'ils n'étaient pas convertis ? Si, quand même, un petit peu. Mais là, sur ce sujet, non. Il y a toujours des sujets où il faut qu'on se convertisse encore. Hein ? Qu'on change encore, qu'on se convertisse. Et à ce sujet-là, ils étaient vraiment détournés de Jésus et de son royaume, puisqu'il dit, ben, si vous ne vous convertissez pas, à ce sujet-là, vous n'entrerez même pas dans le royaume de Dieu. Il leur apprend que c'est l'humilité qui est essentielle. L'humilité, c'est la qualité essentielle pour devenir citoyen du royaume des cieux. L'humilité, c'est une qualité essentielle dans la communauté des élus, dans le royaume terrestre, c'est-à-dire dans la véritable Église de Jésus-Christ. C'est l'humilité. Alors on apprend là que le degré d'humilité conditionne ce que l'on peut apparenter à un rang dans le royaume des cieux, parce que Jésus dit, car les plus humbles seront les plus grands. Voilà. Jésus ne voulait pas que ses représentants, qu'il avait choisis, soient puérils. Loin de là. Il voulait qu'ils soient courageux, il voulait qu'ils soient forts, il voulait qu'ils soient fermes. Mais il voulait qu'ils deviennent semblables à des enfants. Ça a l'air un peu contradictoire. Fort, courageux, ferme, mais obéissant comme des enfants. Sincère comme des enfants. Confiant comme des enfants. Pur comme des enfants. Pas puéril. Non. Parce que celui qui est puéril, il est insouciant, insensé, négligent. On peut pas demander à un enfant, n'est-ce pas, d'être sérieux. Un enfant est naïf, il est boudeur, il manque de maturité, il manque de sérieux, c'est certain, on ne peut pas lui confier des choses très importantes. Eh bien, ce n'est pas de cela dont Jésus parle quand il dit qu'il faut redevenir comme les enfants. Ce n'est pas de cette sorte de choses que Jésus parle. Il dit que nous devons devenir comme des enfants, ok, on comprend, mais pas puéril. Paul semble contredire Jésus si on ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire à ses disciples qui ont un cœur puéril, parce qu'ils avaient un cœur puéril. Pour avoir de telles discussions, il fallait quand même être un petit peu bizarre, puéril, disons. Alors, voilà ce que Paul dit, on trouve ça dans 1 Corinthiens 14, 20, et ça semble... Alors, il y a des gens qui disent, voyez, Jésus dit qu'il faut être comme des enfants, et puis Paul, il dit le contraire. 14, 20, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants, oui. Ah, raisonnez pas comme des enfants. Donc, il faut être comme des enfants, mais pas au sujet du raisonnement. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Voilà. C'est comme ça. La Bible ne se contredit pas, Paul ne contredit pas Jésus. Jésus exhorte ses disciples qui sont puérils. Et là, Paul est en train d'exhorter les Corinthiens qui sont fouillis, chenis et très pentecôtistes, n'est-ce pas? C'est au sujet des dons spirituels qu'il est en train de les exhorter en leur disant « Mais raisonnez un petit peu normalement, soyez des adultes à ce sujet. » Moi, je me rappelle toujours, l'autre jour, dans la voiture, on parlait d'une certaine sœur dans l'église où j'étais, à Lausanne, dans la Pentecôte, et alors, je la voyais tout le temps prophétiser, et c'était formidable ce qu'elle disait, c'était vraiment inspiré. Mais alors, un jour, je lui ai demandé « Mais comment ça se passe quand vous recevez une prophétie ?» Alors elle dit, ça me fait boum ici, et puis ça monte, et je suis obligé de parler. Et moi j'étais très impressionné. Alors j'attendais que ça fasse boum, et que ça monte. C'est pas comme ça. Ça c'est puéril, c'est pas comme ça. Mais bon, personne, il n'y a pas grand monde qui apprend, n'est-ce pas, comment prophétiser. Les Mormons, oui, ils ont des écoles de prophètes. Je sais pas, maintenant peut-être les pentecôtistes se sont rendus compte qu'il faut en avoir. J'en sais rien, je sais pas, ça fait longtemps que je ne vais plus là-dedans. Donc, il exhorte des convertis qui ont besoin d'être rappelés à l'ordre au sujet des dons spirituels parce qu'ils exagèrent, parce que c'est du n'importe quoi. Alors, il y a deux situations différentes, donc il y a deux enseignements différents. Voilà pourquoi on dirait que ça se contredit si on n'approfondit pas la chose. Jésus enfonce le clou, disant qu'un adulte qui choquera un enfant, eh bien, il est passible de la peine de mort. Voilà. Et moi, là, je suis d'accord. Jésus continue, on peut lire dans Matthieu. Matthieu 18:7. Malheur au monde à cause des scandales. Les pièges, les scandales sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Il dit, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui accueille en mon nom un petit enfant, c'est comme s'il m'accueillait moi-même. Hé, bande de salopards qui enculaient les enfants, c'est qui que vous enculez? Merde à la fin. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Encore ce matin, j'ai appris qu'une ONG américaine au Liberia, un sale bonhomme, avec qui a le sida en plus, a violé des dizaines de gamines de 10 ans. Elle leur a foutu le sida. Il était arrêté l'année passée. Il devait être jugé, mais il est mort avant. Il ne sera peut-être pas jugé sur cette terre, mais... Alors là, il y en a qui venaient me critiquer au sujet du suicide. Mais moi, je dis que ça, c'est pire. Celui qui se suicide, il se suicide lui-même. Bon, ça fait de la peine à la famille, c'est horrible, c'est épouvantable. Mais celui qui touche un enfant, Jésus lui-même est pour la peine de mort, là. Là, oui, clairement. Et puis il dit, ou alors coupe ta main si tu peux pas faire... coupe-la ta main, coupe ton pied, coupe, jette loin de toi ce qui te fait pécher. Arrache ton œil si c'est ton œil qui te fait pécher. Et jette loin de toi. Mais on comprend très bien ce qu'il veut dire, hein. Parce que là, il est en train de parler des enfants. De ce qui choque, comment on peut traumatiser un enfant. Maintenant, j'ai été regardé dans le Coran. Parce que j'ai le Coran. Pour ceux qui qui pensent que je lis que la Bible. Non, je ne lis pas que la Bible, je lis beaucoup de choses.
Intérieur et en courant. Par exemple, c'est écrit qu'il faut couper la main de celui qui est voleur. Ok. Celui qui a volé quoi? Quel voleur? Un enfant qui a volé une pomme, il faut lui couper la main? Alors, Allah ne précise pas l'âge du voleur. Il dit pas non plus quelle main il faut couper. Il précise rien du tout. On peut lire, c'est dans la sourate 5, verset 38. Trancher les mains du voleur et de la voleuse, ce sera une rétribution pour ce qu'ils ont commis et un châtiment de Dieu. Dieu est puissant et juste. C'est le Coran. Bon, c'est juste. C'est pas juste. Si tu voles un milliard, on te coupe les mains. Mais si tu voles une pomme, un enfant qui vole une pomme, la même chose, c'est un voleur. Il faut couper les mains des voleurs. Un Dieu tout-puissant, sage, juste, il devrait préciser. Ben non, il ne précise pas. C'est pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Les paroles de Jésus sont sévères, mais je vous rappelle qu'il dit cette chose sévère dans le contexte d'un péché d'adulte qui choque, qui scandalise, qui fait trébucher, qui traumatise un enfant. Un scandale, un piège pour l'enfant. Je pense que vous avez compris de quoi Jésus parle. Encore ce matin, comme je vous disais. Alors, il y en a un au Nigeria, puis il y en a un autre, je ne sais plus dans quel pays, et ça, c'est un évangélique. Vous lirez, c'est dans les nouvelles, c'est ce matin. Jésus est avec ceux qui sont appelés à le représenter, à être ses disciples, et il leur dit, sachant très bien que certains de ceux qui viendraient en son nom seraient des occasions de scandale pour les enfants, des abominables. Alors là, frère Georges, tu peux y aller et taper sur ces abominables. Ça, oui. Je trouve que Jésus a raison. Un enfant naïf, innocent, quelle abomination. Une personne qui choque un enfant, c'est la pire chose. Il vaudrait mieux pour lui qu'il se coupe lui-même la main, qu'il pousse à faire du mal, qu'il se coupe la bite, si c'est ça qui le pousse à faire du mal, que de faire du mal à un enfant innocent. Toute âme humaine sera mise à l'épreuve comme par le feu, nous dit la Bible. Et de même que la chair des sacrifices sur l'autel devait être assaisonnée de sel, vous savez que le sel, c'est le symbole de la protection contre la corruption. Eh bien, de même, l'âme doit recevoir le sel sauveur de l'évangile de Jésus-Christ, et ce sel doit être puissant et pur, et pas tout mélangé. Pas un sel tout sale, c'est-à-dire pas un évangile plein de préjugés, hérité des traditions, non autorisées des églises humaines. Parce que les églises humaines ont des traditions qui ne sont pas autorisées par Jésus-Christ. Ce n'est pas le sel pur de l'évangile de Jésus-Christ qui conduit les églises à protéger les pédophiles. Ce n'est pas l'évangile pur qui conduit le grand gourou là-bas en jupette a traité tous les avorteurs de tueurs à gages. Et en même temps d'interdire aux fillettes qui ont été violées, qui sont enceintes, d'avorter. Ça n'est pas l'évangile pur, ça. Ou d'interdire aux femmes qui sont malades ou qui mettent leur vie en danger parce que ça se passe mal, d'avorter. Il y a des erreurs dans la nature. Partout dans la nature. Vous avez des enfants qui naissent sans yeux, vous avez des enfants qui naissent sans bras, il y a toutes sortes d'erreurs. Vous avez des gens qui ont un corps d'homme avec à l'intérieur une âme de femme, il y a toutes sortes d'erreurs dans la nature. Et il faut se donner la peine de comprendre, on peut pas donner des lois idiotes et stupides comme ce type en jupette à dentelle là-bas à Rome qui se permet de dire que d'aller trouver quelqu'un pour avorter, c'est d'aller trouver un tueur à gages. Non mais c'est quoi ? Tous les cas, alors c'est vrai que toutes ces gamines, toutes ces nanas, toutes ces putes qui vont forniquer partout, et puis qui après se trouvent enceintes, et puis qui vont avorter, oui, ça c'est pas bien. Alors là, je suis d'accord avec le pape, c'est pas bien. Alors que les mecs se mettent des capotes,
Mais le pape, il dit qu'il faut pas mettre des capotes. Mais il croit s'adresser à qui, ce pauvre type? Son public, c'est même pas des gens nés de nouveau. Comment voulez-vous qu'ils se tiennent? Jésus-Christ le dit, ayez du sel en vous-même. C'est-à-dire que chacun pour soi-même, nous devons faire attention d'avoir ce symbole de protection contre la corruption. Voilà ce que Jésus disait à ses disciples qui étaient en train de discuter de niaiserie. Alors, à qui s'adressent ces paroles? Aux croyants, enfantins, puérils, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont puérils. Voilà. Mais il y en a encore. Je vois dans les commentaires sur Facebook, il y en a pas mal qui sont puérils. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, dit Jésus. Car je vous dis que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Oui, Jésus est venu, il est le sauveur de ceux qui temporairement sont perdus et qui, sans son aide, seraient perdus à jamais. C'est vrai, mais il est sévère. Il est sévère et il est juste, pas comme lui là qui dit qu'il faut trancher la main des voleurs et des voleuses et c'est le Dieu Tout-Puissant et Juste qui parle. Non, pour moi, c'est pas Dieu juste et puissant qui parle quand qui dit nannerie pareille. Allah qui exige aussi qu'on fouette les adultères de 100 coups de fouet. 100 coups de fouet. Alors, ça, c'est dans la sourate 24, mais je pourrais vous en citer plein, les trucs comme ça. Hein. Frappez la débauchée ou le débauché de 100 coups de fouet chacun. N'usez d'aucune indulgence envers eux, afin de respecter la religion de Dieu. Alors, pour moi, ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Premièrement, il ne précise pas avec quelle sorte de fouet il faut fouetter. Et que les religieux sont très vicieux, hein, ils fouettent avec des lanières, avec des bouts d'os au bout, ni si les coups de fouet doivent être donnés par un homme ou une femme, ou si les coups de fouet doivent être donnés par un homme normal, entre guillemets, ou bodybuilder. Aucune indulgence, c'est-à-dire le plus fort possible. Sans coup de fouet, tu meurs. Sans coup de fouet, tu meurs. Alors bien sûr que l'adultère, c'est pas bien. Mais ça, c'est une religion pour sauvages. Il faut changer ça. Jésus est venu, la religion de l'Ancien Testament, aussi, hein, il fallait lapider les femmes adultères. Mais Jésus est venu, puis il a changé ça. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il a changé ça. Voilà pourquoi dans notre civilisation chrétienne, on évolue. Mes frères et sœurs, soyez des adultes pour ce qui est du raisonnement, du jugement. Mais pour ce qui est du mal, soyez comme des bébés, innocents. Et pour ce qui est du royaume des cieux, bien votre mesure sera prise, c'est-à-dire on mesurera, selon la mesure que vous avez sur cette terre, c'est-à-dire selon votre comportement terrestre. Il faut réfléchir. Eux, ils ne réfléchissent pas, là. C'est écrit. Il faut tuer les mécréants. C'est nous, ça, les mécréants. Pour eux, d'après eux, c'est nous. Ben, ils font que obéir à leur religion. Aucun raisonnement. Vous trouvez que ça vient de Dieu? Dans la vraie Église de Jésus-Christ, voilà comment les choses doivent se passer. On va lire Marc 10, 42. Marc 10, 42. Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur les nations et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Vous avez compris? Ceux qui ont du pouvoir dans les nations, ils dominent et ils tiennent les petits sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas, ça ne doit pas être le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre esclave. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme, il parle de lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors je dis que l'Église mondaine, quand elle veut imposer la vérité, sa vérité, parce que cette Église-là a une sorte de vérité, celle-là on en a une autre, celle-là on en a une autre, elles se réclament tous de la même Bible mais ont tous des vérités différentes, et quand ils cherchent à l'imposer en condamnant tous les autres, après c'est des Églises mondaines, et quand ils veulent combattre ce qu'ils appellent l'erreur, ben ils sont pas corrects. Parce qu'ils doivent être serviteurs, même pire, esclaves. Si un homme ou une femme dans l'Église veut défendre la vérité, se sont investis, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, pour aller défendre la vérité, ben il doit d'abord être lui-même esclave de la vérité. Et un esclave n'a aucun pouvoir. Il obéit, comme un enfant. C'est tout. Être esclave de la vérité, c'est être esclave de Jésus-Christ. C'est être esclave de son Église. Être esclave de tous, ça passe donc par l'amour d'abord. Alors ceux qui viennent, tous ces Georges Lama ou je ne sais pas quoi, qui viennent et puis qui condamnent tout le monde. Oui, là ce matin, j'ai condamné ce qui est condamnable. Mais on ne condamne pas tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas exactement comme nous. Non, mais si Jésus dit pour ça, c'est la peine de mort, bon ben voilà. On sert Jésus et son Église par amour. Ou alors on est des mercenaires. Parce que nous devons être esclaves de tous pour être comme Jésus qui s'est fait esclave de tous. Il est venu non pour servir, non, pour être servi, pardon, mais pour servir. Alors, tu n'aimes pas l'Église ? Eh bien, tu la quittes. Sortez du milieu d'elle, parce qu'elle est dans l'erreur, mais si tu es dans la vraie Église de Jésus-Christ et que tu n'aimes pas cela, ben tu sors, c'est tout. Et puis tu vas faire tes saloperies dans le monde, qui lui se chargera bien de te juger. Les premiers disciples à Capernaum étaient puérils. Les disciples de Corinthe étaient indisciplinés. Mais ne nous gaussons pas. Dans quel état sommes-nous? Que chacun se regarde lui-même, que chacun regarde s'il a suffisamment de sel en lui-même. Jésus est à la porte. Pensez-y, c'est important. Amen. Merci Jésus de nous aider à comprendre ces choses et de faire ta volonté. Toujours personnellement, sans chercher à imposer, à diriger, à prendre l'autorité d'une façon abusive, et que nous soyons des gens raisonnables, adultes et enfants quant à l'obéissance, à la sincérité et à toutes ces choses-là, à pureté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.